Martin, IA numéro 15896 de série BZ38, affilié à la maintenance et surveillance du vaisseau Dynasty, croiseur interstellaire 257e génération. Nous sommes le 18 février 1244 du calendrier orioniste. La mission Dynasty a débuté il y a 130 ans, 4 mois, 13 jours, 8 heures, 38 minutes et 17 secondes. La distance parcourue et la vitesse de la lumière pendant cette période est aujourd'hui de 1.203.86.129 pétamètres, soit 67.5 fois la taille du cosmos connu. Les réserves énergétiques du vaisseau sont consommées à 37.78%, les réserves alimentaires à 43.18%, et la température intérieure moyenne est de 17 degrés Celsius. La carapace du vaisseau n'est endommagée qu'à 0.00007%. Aucun appareil intérieur n'est touché et la vitesse reste stable à 300 000 km par seconde. La génération 5 qui constitue aujourd'hui l'équipage du vaisseau se compose de 7 individus, 4 mâles et 3 femelles. Selon les dernières données médicales, chacun d'entre eux est à au moins 70% de ses capacités physiques et en parfaite disposition pour procréer, avec un pourcentage de consanguinité inférieur à 20%. La période de procréation doit débuter sous 3 mois au maximum et les chances de succès sont estimées à 97.3%. Les résultats des récentes analyses de la section de recherche n'ont pour l'instant rien révélé de notable et les radars sont vierges de toute éventuelle planète ou corps astral viable ou non. La mission n'ayant pas encore atteint son objectif, elle doit encore se poursuivre pendant 170 ans, 8 mois, 17 jours, 5 heures, 12 minutes et 45 secondes. C'était Martin, IA du vaisseau Dynasty, au rapport du 47585e jour depuis le début de la mission. Fin de transmission.
Allez, encore un peu. J'y suis presque.
Cet accès est refusé, à moins de saisir le code d'accès.
Mais merde, encore un code d'accès! Combien de barrières il reste à craquer avant d'atteindre ce foutu cube mémoire?
Calme-toi, Robin, tu pourras toujours reprendre ça demain.
Alors ça, jamais! Ça fait 3 semaines que je me casse le derrière à passer à travers ce foutu système. J'ai juré que je réussirais aujourd'hui. Et je réussirai. Un point, c'est tout.
Ça ne fait même pas partie de tes fonctions de réactualiser le système de Martin. Tu donnes beaucoup de peine pour pas grand-chose.
Ouais, ouais, Emma, t'as tout à fait raison. Allez, foutu code, tu vas finir par lâcher à la fin.
Cet accès est refusé, à moins de saisir le code d'accès.
Ouais, c'est ça, ouais, cause toujours. N'empêche que ton code... Je l'ai!
Code correct. Accès au cube mémoire numéro 38 autorisé.
Et voilà le travail. Maintenant, j'ai accès au cube mémoire de notre cher Martin.
Parfait. Eh bien, en attendant, c'est l'heure du contrôle médical. Donc tu éteins ton terminal et tu vas voir Matt.
Oh, je venais juste de réussir. Enfin, peu importe. Je finis juste ce petit téléchargement et je vais voir ton cher mari.
C'est ça. Eh bien, dépêche-toi parce que Mathias est...
Et très à cheval sur le code, je sais. Bon, c'est fini. J'y vais. Tu t'occupes de tout éteindre ?
T'inquiète pas, je m'occupe de tout. Martin, extinction des terminaux 3 et 5 et mise en veille des terminaux 1 et 4.
J'arrivais finalement au centre médical du Dynasty. J'avais toujours eu horreur de cet endroit. Cela faisait 30 ans que j'y allais chaque soir pour subir une batterie d'examens médicaux et je n'avais jamais réussi à supporter cette pratique. Mathias, le médecin de bord, se tenait debout devant la fenêtre donnant sur l'espace, autrement dit sur des ténèbres sans planète. Il se retourna vers moi et m'adressa un sourire qui sonnait faux. Je lui répliquai de même. Sans qu'il soit un sale type, je n'avais jamais réussi à apprécier ce gars, sans doute parce que c'est lui qui s'occupait de la partie la plus désagréable de ma journée.
Bonjour Robin. Alors, prêt pour votre examen?
Autant que d'habitude, Matt. Bon, on peut faire ça vite, j'aimerais bien montrer quelque chose à Leila.
On va essayer d'être rapide dans ce cas. Allez, installez-vous.
Ah, j'ai toujours eu horreur de ce truc.
Pour le subir aussi tous les matins, je compatis. Mais vous savez comme moi que c'est nécessaire au succès de notre mission.
Ah! Enfin, je veux dire, Enfin, je veux dire que je comprends bien la nécessité d'examens médicaux, mais de là, les supporter chaque jour.
Et je sais bien, mais selon le code, ce procédé doit être répété...
Chaque soir, avant le dîner de l'équipage, de sorte qu'une courbe des capacités physiques puisse être établie dans le but d'améliorer les conditions alimentaires et médicales de l'équipe. Je sais, Mathias, le code, on le connaît tous par cœur. Je me demande juste pourquoi on continue à le suivre au doigt et à l'œil, alors que ceux à qui on a envoyé les résultats sont tous morts.
Votre raisonnement est erroné, Robin. Ce n'est pas parce que le cosmos a disparu et que nous sommes les 7 derniers individus de la race humaine qu'il faut se laisser aller. Le code a été conçu pour des chances de survie et des capacités physiques optimales.
Des conditions physiques tellement optimales qu'elles s'arrêtent à 40 ans, je vous signale. Ce compte-là, j'aurais préféré bouffer et dormir autant que possible jusqu'à mon exécution.
Déjà, le terme exact est « arrêt de vie » pour votre gouverne. Et j'ajoute à cela que nos scientifiques nous ont assuré qu'au-delà de 40 ans, les capacités physiques et intellectuelles des humains décroissent et que le taux de succès de la mission en est amoindri. Estimez-vous plutôt heureux d'éviter cette décrépitude alors que nos femmes, elles, devront attendre leurs 50 ans avant de subir leur arrêt de vie?
C'est vrai. Oh, quel malheur! Elles auront de voir grandir nos futurs enfants jusqu'à leurs 20 ans, alors que nous mourrons quand ils n'en auront que 10. Oui, je ne peux que compatir.
Bon, visiblement, ça ne sert à rien de discuter avec vous. Vous êtes toujours buté. Martin, quel résultat?
Les taux de cholestérol et de glucose dans la prise de sang sont du même ordre que ceux des dernières semaines, c'est-à-dire excellents. Même résultat sur la vue au rayon X. Aucune trace de maladie ou même de contusion. Vous avez un corps d'athlète, Robin. Vous auriez pu rivaliser avec certains des meilleurs sportifs d'Orient dans les conditions physiques où vous vous trouvez.
Eh bien, c'est bon à savoir, même si j'entends le même constat depuis 30 ans.
Parfait. Eh bien, puisque le contrôle est terminé, je vous libère, Robin. Retournez à vos occupations 100 fois plus importantes que le succès de la mission.
Pour Matt, je crois que j'ai un peu exagéré pour le coup. La journée a été rude, j'ai peu dormi cette nuit.
Ne me sortez pas ce genre d'excuses, Robin. Je suis médecin et j'ai votre feuille de santé sous les yeux. Vous avez très bien dormi cette nuit, c'est évident.
On peut rien vous cacher. Enfin bref, fausses excuses mises à part, je suis désolé de m'être énervé. Je sais que vous aimez votre travail, c'était stupide de ma part de dire toutes ces idioties.
Ah, c'est rien, vous savez. Moi aussi, je doute un peu de tout ça parfois.
Mathias se rapprocha de la baie vitrée qui nous séparait de l'espace et planta ses yeux dans les ténèbres, comme les défiant de le happer et de le dévorer au dehors, dans le vide absolu. Il se retourna alors vers moi, la mine grave. Il avait toujours la mine grave, Mathias, mais cette fois-ci, il y avait quelque chose de terne dans ses yeux, quelque chose qui semblait le grignoter de l'intérieur depuis longtemps.
Je réfléchis souvent à notre mission, vous savez. Et plus l'heure de procréer approche, plus je m'interroge sur la vie elle-même. Qu'ai-je vécu sur ce vaisseau, au fond? Des journées toutes semblables, standardisées par le code? Ce n'est pas que je doute, mais... je ne sais pas. Parfois, tout me paraît si inutile. J'en viens même à me poser des questions sur notre place dans tout ça. Vous savez, la vie n'est qu'un cri. Une longue litanie de plaintes et de hurlements. Les pleurs de la naissance, les rires de la jeunesse. Puis les cris de rage et les borborygmes de désespoir, rythmés par le sifflement de notre respiration. Et tout s'achève par un dernier soupir. Puis le silence. La vie est une symphonie de sons. Pourtant ici, j'aurais beau hurler à m'en déchirer les poumons, rien ni personne ne m'entendra. Mais alors, sommes-nous morts? Non. Nos cœurs battent. C'est donc que nous ne sommes pas encore en vie. Comme les fœtus dans le ventre de leur mère. In utero. Que pensez-vous de tout ça, Robin?
J'en pense, Mathias, que vous devriez descendre au labo de Blaise moins souvent. Vous en revenez toujours la tête pleine d'idées noires.
Oui, vous avez sans doute raison. Je suis un petit peu trop influençable. Mais d'un autre côté, comme Blaise ne remonte plus manger et dormir avec nous, il faut bien que je descende à la section scientifique pour lui faire ses examens.
D'ailleurs, qu'est-ce qu'il devient, Blaise? Ça fait au moins un an qu'on l'a pas vu, non?
Plutôt bien. Enfin, je suppose. Sur le point physique, en tout cas. Mais c'est plutôt son état mental qui m'inquiète. Il se lance facilement dans des discours furieux, qui ont peu de sens d'ailleurs.
Comme par exemple dire que nous sommes des fœtus et que le dynastie serait en réalité notre mère. Vous valez mieux que ces idiots aussi, Matt.
Oui, vous avez raison. Bon, Emma ne devrait pas tarder. Vous pouvez y aller.
À tout à l'heure.
Martin, arrose de 50 centilitres les roses Cassiopée de la Samisette. et augmente de 10% l'humidité de la serre douce.
Tout de suite, Leïla.
En arrivant dans la serre, je restais d'abord un peu à distance pour observer Leïla. De dos, tenant d'une main un carnet sur lequel elle griffonnait toutes les fantaisies qui lui passaient par la tête concernant ses serres, et Flop perché sur son épaule, elle avait l'air en pleine réflexion.
Alors mon petit Flop, qu'est-ce que tu penses de ça?
Flop.
Avec ça, on devrait facilement avoir des floraisons dès demain matin. Tu montes le vent de la bouche.
J'aimais beaucoup l'avoir administré l'unique espace vert du vaisseau. Ça lui donnait un air de gérante sévère qui ne lui allait pas du tout. D'ailleurs, elle s'échauffait pour n'importe quel prétexte pour le seul plaisir de s'énerver contre Martin.
Martin, qu'est-ce que tu m'as encore fichu?
J'ai humidifié à 10% supplémentaire l'humidité de la serre 12, comme vous me l'aviez demandé, Leïla.
Mais tu comprends rien aux plantes, espèce de tas de ferraille. Je pourrais te demander de distiller du brouillard de kérosène dans tout le vaisseau que tu le ferais. Baisse moins de 5% la vapeur avant que ton erreur cause des dégâts.
Tout de suite, Leïla. Mais comprenez bien que c'est vous qui avez dicté l'ordre et que je n'ai fait que...
Et au lieu de faire le mariage, balance-moi un peu plus d'oxygène dans la serre 3. Tu vas venir par tuer mes poiriers fluorescents par asphyxie.
Mais, Leïla, vous savez que les végétaux consomment principalement du dioxyde de carbone et que...
Martin, qu'est-ce que je viens de te dire?
Tout de suite, Leïla.
Eh bien, tu mènes tes serres d'une main de fer, ma chérie. Tu bois bien de maltraiter Martin.
Tiens, tiens, qui voilà? Ne serait-ce pas celui qui passe ses journées à convaincre notre chéria de lui ouvrir ses cubes mémoire? Et qui ose me critiquer? C'est l'hôpital qui se moque de la charité, comme aurait dit mon père.
Touché coulé, bien vu, chérie. Alors, t'as passé une bonne journée?
Excellente! Les roses cassiopées devraient fleurir d'ici demain, et le potager de la serre 18 donne des cornichons longs comme mon bras.
Tu as de petits bras, mais c'est un peu inquiétant, non?
Là encore, c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Tu sais comment je les ai fait prendre ces proportions?
En demandant à Martin de manipuler un peu l'ADN des semences, je suppose.
Manqué! Figure-toi que je leur ai fait écouter tes vieilles musiques en boucle. Ça les a fait doubler de volume. D'ordinaire, les cornichons de Beta Draconis ne dépassent pas les 30 cm.
C'est encore un moyen détourné de me dire que mes musiques ne sont bonnes que pour des cornichons, c'est ça?
Mais non, tu conclus ce que tu veux. Encore, que j'ai fait écouter cette même musique à mes cerisiers d'Alpha Virginis, tous les fruits ont pourri en une après-midi.
Eh bien merci, c'est charmant. Et à part ça, d'autres nouvelles?
Oui, les belles amies de la serre 2 ont enfin éclos.
Ouais, et alors?
Et alors c'est magnifique! Cette petite cloche rosée, pulpeuse comme un nectar d'Orion, fine comme un fil de laine, c'est une merveille végétale! Tu verrais ces pétales délicats s'exalter sous la brume artificielle, et les petites gouttelettes qui trouvent leur refuge dans ces aspérités de son épiderme coloré et qui revêtent sa teinte. Même quelqu'un ayant ton mauvais goût musical s'extasierait.
Évidemment, si tu aimais tes mots, même une crotte de flop serait poétique.
Et si on y met tes mots? On s'ennuie à mourir, mon chéri. Tout ce que tu connais, c'est des foutues chansons et ton ordinateur de contrôle. Au fait, tu as trouvé ton bonheur aujourd'hui, ou encore chou blanc?
J'ai fini par trouver l'enregistrement que je cherchais. L'équipage de la Génération 2 l'avait planqué sous un paquet de protection, d'ailleurs.
Et alors? Ça valait le coup?
Vérifie par toi-même. Martin, enregistrement 18.
Avec plaisir, Robin.
Mesdames, messieurs, nous sommes aujourd'hui réunis pour un événement historique. Vous souvenez-vous lorsque Yuri Gagarin a pour la première fois été dans l'espace? Vous souvenez-vous lorsque Neil Armstrong a marché pour la première fois sur la Lune? Vous souvenez-vous lorsque quelques décennies plus tard, les Terriens, sous le commandement de Carl Frankson, ont établi leur première colonie sur la planète Mars? Ces trois événements ont été la genèse de l'aventure spatiale. La suite, vous la connaissez. L'expansion, la colonisation des galaxies avoisinantes par notre glorieuse race. Nous avons fait revivre des planètes mortes, avons su maîtriser la vitesse de la lumière et avons même utilisé l'énergie des soleils pour atteindre l'apogée de notre civilisation. Aujourd'hui, l'humanité s'est établie dans toutes les galaxies de notre cosmos. Mais un dernier pas peut encore être fait vers la maîtrise absolue de l'univers. Si nous sommes réunis sur Orion, c'est pour célébrer ceux qui accompliront ce pas. Souvenez-vous, il y a 1114 ans, cet événement qui a sonné le commencement du calendrier orioniste. Le vaisseau Silver Bright atteignait la planète Orion, considérée unanimement comme la limite du cosmos par les astronomes. Au-delà de cette planète ne s'étend que le vide, l'infini de l'univers où l'homme ne posera jamais le pied, prétendait-il. Et nous saurons désormais s'ils avaient raison. Je salue donc le courage des membres de la mission Dynastition, qui partent au-devant de l'inconnu, à bord de leur vaisseau équipé de la vitesse lumière. Ces personnes, ainsi que les 12 générations qu'elles engendreront, seront soumises à un code très strict. Le but de leur mission est primordial. Vérifier si, au-delà du vide, il existe un second cosmos, ou même le plus infime des corps astrales. Aux élus de la mission, je vous demande un tonnerre d'applaudissements.
C'est étrange de ne trouver cet enregistrement que maintenant. J'aurais cru que nos prédécesseurs l'auraient laissé en évidence. C'est plutôt porteur de courage, ce message, tu ne trouves pas?
Ça, c'est ce que tu crois. Moi, j'ai le sentiment que la génération 2 nous l'a caché, et pour une bonne raison.
Ah ouais? Et quelle raison? C'est inoffensif comme discours.
Le discours, oui. L'information qu'on peut y repérer, beaucoup moins.
Quelle information? On sait tout ça depuis notre naissance.
C'est un simple détail, mais ça m'a fait tiquer. Écoute ce deuxième communiqué, tu comprendras peut-être. Martin, enregistrement 19.
Avec plaisir, Robin.
Bonjour, Mission Dynasty. Ici le général William Vinok de la flotte stellaire Orioniste. Je vous contacte pour vous annoncer une terrible nouvelle. Une catastrophe stellaire a eu lieu dans la galaxie Delta Leonis et a entraîné la destruction de milliers de stations et de colonies spatiales. Tout notre réseau galactique est touché. Une onde de choc est en train de déferler sur notre civilisation. Et nous vivons nos derniers jours. C'est un second Big Bang. Les trois quarts des planètes ont déjà été détruites. L'humanité est en train de s'anéantir sous nos yeux sans qu'on puisse rien y faire. Rien. Nom de Dieu. Rien. À l'heure où vous recevrez ce message, Mission Dynasty, l'humanité aura cessé d'exister, ainsi que le cosmos. Vous serez les derniers représentants de notre race, les derniers héritiers, les derniers. Je vous en prie. Survivez.
C'est étrange. À chaque fois que j'écoute ce message, j'ai l'impression d'avoir perdu quelque chose. C'est arrivé un siècle avant notre naissance, pourtant. C'est la génération 2 qui l'avait réceptionné, non?
Exact, exact. Et d'après moi, ce message est un mensonge.
Un mensonge? Mais qui serait assez bête pour nous faire ça? Tu débloques, Robin.
Je sais que ça peut paraître absurde, mais écoute-moi une seconde. Est-ce que tu te souviens de comment nous appelait William Vinok dans le dernier enregistrement qu'on a reçu?
Eh bien, Mission Dynasty, non?
Et comment l'homme politique du premier enregistrement nous appelait?
Eh bien, Mission Dynasty aussi, qu'est-ce que tu veux dire?
Eh bien non, il nous appelait Mission Dynastition.
Et alors?
Et alors, tu ne trouves pas étrange que le Génération 2 ait caché ce message aussi profondément dans les cubes mémoire de Martin? D'après moi, Mission Dynastition signifie qu'il y avait deux vaisseaux, le nôtre, le Dynasty, et un deuxième, Sion.
Génial, ça révolutionne ma façon de voir le monde. Et quel rapport avec la fin du cosmos?
Voilà ma théorie. La génération 1 de ce deuxième vaisseau a suivi à la lettre le code, mais la génération 2 n'a pas fait de même. On est d'accord que la vie sur ce vaisseau n'est pas désagréable, mais nos ancêtres l'ont choisi pour nous. Et chacun d'entre nous reviendrait vers le cosmos si on le pouvait. C'est ce qu'a fait la génération 2 du vaisseau Sion, d'après moi. Et les Orionistes, en voyant revenir un vaisseau parti en mission, comment auraient-ils réagi?
Attends. T'es tout de même pas en train de me dire que les Orionistes auraient...
Exactement. Si le vaisseau Sion est revenu vers le cosmos pour rentrer chez soi, les Orionistes ont envoyé un message à notre vaisseau pour que nous n'ayons pas de chez soi vers lequel revenir. J'en suis convaincu, Layla. Le cosmos n'a pas disparu. On n'est pas les seuls.
Écoute, Robin, je comprends que ça te ferait plaisir de revenir chez nous. Je t'ai toujours vu regarder des films et écouter des musiques qui en viennent. Mais ne perds pas la tête. Tu te rends compte que toute la théorie se fonde sur un détail d'un enregistrement d'il y a un siècle? Et quand bien même il y aurait un vaisseau Sion, tu ne penses pas que William Vinok a simplement fait un écart en ne le citant pas dans son enregistrement? Il vivait la fin du cosmos, Robin. Rends-toi compte!
Ouais, je me doute bien que c'est absurde comme histoire. Pourtant...
Robin, tu te fais du mal. Tu sais très bien que cette histoire n'a aucun sens. Se raccrocher à une chimère ne mène jamais à rien de bon. Allez, viens, on va rejoindre les autres, c'est l'heure du dîner.
Ouais, tu as sans doute raison. Et puis de toute façon, je meurs de faim.
Ouais, c'est l'idée.
Thank you.
La salle à manger était une petite pièce où des canapés gonflés de mousse avaient été établis en cercle autour d'une table chromée. Les plats préparés par Martin n'étaient pas des plus gastronomiques, mais les conversations allaient bon train.
Salut Emma. Les autres sont pas encore là ?
Eh oui, mon cher Toubib de Marie devait encore faire passer un examen à Judith. Et Ben est retourné à la salle des machines, un problème de joint à régler, du moins c'est ce qu'il a dit à Matt.
Eh bien c'est joyeux. Quant à Blaise, fallait même pas espérer sa présence.
Il sort plus de son labo depuis un an, il ne fallait pas s'attendre à grand chose.
Bon, eh bien je ne propose de ne pas attendre les retardataires et de commencer à manger. Moi j'ai une faim de loup.
Qu'est-ce qu'il y a au menu ce soir, Martin ?
Un pâté de courgettes de bêta draconis, des jus de fruits lyophilisés et une tranche de viande de bœuf pour chacun.
De la viande ? Oh, on a du bol ce soir.
Tu n'oublierais pas quelqu'un, Martin ?
Non, Leïla, j'ai bien préparé la pâtée végétalienne de Flob.
Parfait.
Est-ce que Judith est là ?
Mon chéri, qu'est-ce qui t'arrive ?
Je cherche Judith. Elle est pas passée faire son examen médical. Elle est pourtant jamais en retard.
Du calme, Mathias. Elle a peut-être simplement oublié. Si ça te rassure, on peut appeler Blaise pour savoir si elle travaille encore au labo.
Je viens de le faire. Elle n'est pas au labo, c'est bien ça qui m'inquiète.
Eh bien, c'est qu'elle doit être dans sa chambre.
Mais à cette heure-ci, elle devrait être ici.
Tu crois pas que t'en fais trop, là ? Elle manque un seul de tes foutus examens en 30 ans et tu paniques.
C'est pas seulement ça, j'ai un mauvais pressentiment, Robin. Un très mauvais pressentiment.
Ah, très bien. Dans ce cas, on va passer à sa chambre, voir ce qu'elle fait pour en avoir le cœur net. Les filles, commencez sans nous.
D'accord.
On sera pas long.
Pas de soucis.
À tout à l'heure.
Voilà, on y est.
Bon, maintenant, je vais ouvrir cette porte et tu vas te calmer, d'accord ? Te voir excité comme une puce, c'est bon pour les nerfs de personne.
Oh. Nom de Dieu.
Mais à quoi ? Elle s'est endormie toute nue pour que tu nous fasses une crise comme ça ou tu... Oh merde !
On m'aurait dit que le mauvais pressentiment de Mathias était fondé. J'aurais eu du mal à le croire. Mais ce que j'avais sous les yeux, j'avais encore plus de mal à le croire. À terre, dans une mare de sang, s'étendait le corps de Judith. Une barre de fer teintée de pourpre était jetée négligemment à côté de son crâne brisé.